On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode.
Hello tout le monde, très heureux aujourd'hui d'accueillir une nouvelle invitée qui va nous parler de son partage d'expérience entrepreneuriale, de ses premières fois. J'accueille aujourd'hui Noémie Michaud, photographe, qui va nous en dire un petit peu plus sur son activité. Salut Noémie, très content de t'accueillir, si tu peux nous en dire justement un peu plus sur ce que tu fais.
Bonjour Alexandre. Alors, je suis photographe depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisée en portrait et mode. Et je suis aussi community manager. Et en fait, je crée du contenu pour les marques, principalement pour Instagram et Pinterest.
Ok, hyper intéressant. Par rapport à ta cible, du coup, portrait mode, donc c'est des marques sur Instagram, c'est des entreprises, j'imagine, mais tu fais aussi des particuliers ?
Alors, je fais pas de particuliers, je fais des entrepreneurs quand c'est du portrait corporate ou des sportifs. Et je fais aussi des portraits de comédiennes, de modèles, des books, des polas en fait pour leurs agences. Mmh. Et ensuite, effectivement, pour le côté mode, c'est plutôt des marques ou des agences en fait qui me contactent directement.
Ok, mais d'ailleurs, je crois que tes photos me disent quelque chose. Et ce serait pas toi d'ailleurs qui a pris mes photos ?
Oui, Alexandre.
Oui, t'as pris des photos de moi.
Il paraît.
Pour alimenter mes contenus du coup sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai. Ah ok.
Voilà.
La mémoire me revient.
Il paraît qu'on s'est déjà rencontrés.
Il paraît. Donc, gros travail de qualité, effectivement, que tu délivres.
Merci.
Je le confirme. Donc, très content de t'avoir avec moi. Et puis, on va parler de 5 de tes premières fois. C'est l'objet, mm-hmm. C'est la thématique du podcast. On va commencer par la première. On commence en douceur. Donc, les statuts d'entreprise, en général, quand on se lance, sont hyper importants. Donc, si tu peux nous parler de ton premier statut d'entreprise.
Alors, mon premier statut, c'était une EURL. En fait, c'était il y a 10 ans, j'avais quitté une agence dans laquelle je travaillais avec une rupture de contrat. Du coup, j'avais prévu d'avoir de quoi lancer mon activité pendant à peu près 15 mois, puisque je touchais des droits au chômage. On m'avait donc conseillé ce statut-là, aussi parce qu'à l'époque, quand on était auto-entrepreneur, il y avait un plafond de 30 000 euros de chiffre d'affaires.
Ça a changé depuis.
Voilà, ça a changé depuis. Donc à l'époque, je m'étais dit que quand même 30 000 euros, c'était pas beaucoup. Mmh. J'étais un petit peu ambitieuse.
Bien.
J'avais envie de gagner plus. Et surtout, ça me permettait de garder mes droits au chômage comme en trésorerie, en fait, et de pouvoir vraiment me lancer. J'avais l'impression qu'auto-entrepreneur, ça me permettait pas ça.
Donc là, tu gardes la trésorerie, tu continues de toucher le chômage, et puis ça te permet aussi de prévoir et puis de potentiellement penser à investissement pour la suite, pour toi.
Exactement. Et c'est vrai que j'avais du matériel à acheter, en photo, c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir au moins un flash, un appareil photo récent, ouais. Un ordinateur qui fonctionne bien. Donc voilà, j'avais quand même des frais à faire, ce qui n'est pas possible avec auto-entrepreneur.
Ouais.
Après, ça a duré du coup jusqu'en 2018, donc 2013-2018 sur ce statut. Mais je trouvais à la fin quand même que j'avais énormément de frais, notamment des frais de comptable.
Okay.
Surtout que au début, j'ai vraiment pas eu un bon cabinet comptable. On m'a très mal conseillé. On m'avait notamment dit que l'acre était supprimée, donc j'ai pas pu en bénéficier.
Ouais.
Donc voilà, il y avait plein de petites choses qui m'allaient pas. Et j'avais envie d'une structure plus légère. Et surtout, à ce moment-là, le nouveau statut de micro-entreprise existait. Et donc, on pouvait facturer beaucoup plus avec quand même la TVA à payer. Mais donc,
C'est plus intéressant.
Du coup, j'ai fermé... Voilà, exactement. En tout cas, ça correspondait plus à moi, ce que je pouvais faire. Du coup, j'ai fermé ma boîte. et j'ai créé mon statut de micro-entreprise en 2018.
Ok, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est pas toujours évident du coup d'avoir le bon statut dès le départ, en tout cas de choisir le bon. Après, c'est pas grave s'il n'y a pas le bon, on le voit aussi, il y a cette flexibilité où on peut changer, c'est-à-dire tu peux être auto-entrepreneur et après être en EURL ou en SASU par exemple. Donc oui, ça, il y a cette possibilité-là. Après, ce qui est aussi difficile, c'est le choix de la comptable, du comptable ou du cabinet comptable. Ce n'est pas toujours évident parce que c'est un peu comme un médecin. Quand on y va, on confie notre santé à cette personne-là. Si la personne nous dit « vous avez une angine, finalement, c'était un cancer », ce n'est pas le même diagnostic. Donc,
non, c'est sûr. C'est important. Et puis, c'est vrai que moi, je ne viens pas d'un milieu d'entrepreneur. Donc, je n'avais pas forcément de personnes qui m'ont recommandé... je dirais des comptables adaptés à moi, ce que je voulais faire, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai pris un gros cabinet qui me coûtait vraiment très cher. Alors, voilà, c'était bien. J'avais des gens qui me conseillaient, mais j'avais quand même l'impression d'être un peu saignée, quoi, et de payer très cher une prestation qui, au final, enfin, voilà, j'avais pas non plus
ça justifiait pas forcément
des salariés avec des fiches de salaire, etc. Quoi.
Ça peut monter très vite.
Ça justifiait pas.
Ça peut monter très vite, effectivement. Ok,
c'est ça.
Hyper intéressant ce que tu nous dis, de bien faire attention à ça, le choix comptable et puis aussi le choix des statuts. On va du coup...
Oui, par contre, si je peux du coup préciser quelque
Bien
chose,
sûr.
C'est que quand même, ça m'a servi parce que du coup, quand je suis passée auto-entrepreneur, j'avais vraiment une connaissance de l'URSSAF, de... Voilà, enfin, ça me fait pas peur un peu de faire la paperasse, je sais ce qu'il y a à faire pour déclarer la TVA, pour... voilà, même pour la sécu, les assurances, etc. C'était quelque chose qui m'était familier.
D'accord. Moi, c'est pas forcément quelque chose qui est sexy, en tout cas pour les entrepreneurs. Beaucoup n'aiment pas faire ça,
non.
Beaucoup la délèguent, mais c'est quand même important, justement, d'avoir un œil sur ça, de s'intéresser quand même à la comptabilité un minimum. Tu parles aussi du URSSAF, administratif. Bon, on n'a pas forcément envie de le faire. Moi, je délègue aussi cette partie, mais j'en fais un petit peu. Mais c'est quand même important d'avoir les bases pour éviter des contrôles et puis pour éviter d'avoir des choses qui s'accumulent et être un peu embêté par la suite.
Exactement.
On va passer à cette deuxième première fois. Ton premier congé maternité, du coup.
Oui.
C'est intéressant d'en parler. Pourquoi ? Parce que, bon, un congé maternité, tout le monde sait ce que c'est. Mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est dans l'entrepreneuriat ? Tu confirmes que dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas 60 jours ni 90 jours de congé. On est d'accord ?
Eh bien, en fait, quand tu es entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, si tu as déjà cotisé un certain nombre de mois, tu as le droit à ton congé mat de... presque 3 mois comme n'importe quel salarié, en fait.
D'accord. Et est-ce que tu as du coup quelque chose en compensation financièrement ou pas du tout?
Alors, on te paye, tu as un forfait par jour qui t'est attribué en fonction de tes cotisations et en fonction aussi de ton chiffre d'affaires. Alors, ça monte pas très très haut.
Mais c'est déjà ça.
Malheureusement, voilà, ça existe. Et en fait, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disaient qu'ils n'y avaient pas le droit. Mais en fait, si, on a tous le droit à un congé maternité à partir du moment où on a cotisé X mois. Le seul problème, en fait, c'est que ça ne compense pas les mois qui vont suivre où on est obligé de redémarcher, où on a éventuellement perdu des contrats. Ça, c'est vrai que c'est pas tenu en compte, quoi.
C'est pas tenu en compte, mais toi, c'est une information que je ne connaissais pas et qui peut, je pense, servir à beaucoup de personnes. C'est des choses de la vie. Oui, c'est des choses de la vie. Demain, tu es entrepreneur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aussi faire des projets pour ta vie personnelle. Donc, si demain, vous êtes parent, c'est des choses qui sont possibles. Bien se renseigner là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Donc,
Et se renseigner aussi avec sa... Enfin, si on a une prévoyance... moi, j'avais effectivement un forfait avec une prime de maternité qui m'était délivrée. Donc ça m'a aussi servi. Et puis, j'avais mis aussi beaucoup de trésorerie de côté pour pouvoir tenir plusieurs mois si jamais je retrouvais pas tout de suite des clients.
Super. Ça, c'est bien ce que tu dis parce que c'est hyper important d'anticiper, de prévoir. Moi, quand j'ai démarré mon entreprise en 2016, il y a 7 ans maintenant, j'ai démarré from scratch, c'est-à-dire sans rien du tout, en mode rouleau compresseur. Alors, ça a fonctionné. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en cas de gros coup dur, notamment j'en ai eu pendant cette période-là, si tu n'as pas d'épargne de côté, ça peut être intéressant d'en avoir. Ça peut éviter de retourner chez papa et maman. Ça peut éviter justement d'aller au resto du cœur. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce matelas.
Oui, moi, c'est sûr que je pense que si je n'avais pas eu les droits au chômage, je ne me serais jamais lancée à mon compte. Et pareil, voilà, le congé maternité, je pense que ça aurait été très, très compliqué si j'avais pas eu la trésorerie de côté. Surtout que j'ai eu deux enfants assez rapprochés. Donc, en fait, j'ai eu deux congés maternité assez rapprochés, plus le Covid. Donc voilà, heureusement que j'avais mis de l'argent de côté.
Tu fais bien d'en parler, parce que c'est des aléas, des pandémies qu'on ne peut pas prévoir. Donc, c'est important aussi de se protéger, même quand tout va bien. Yes, du coup, on passe à cette troisième première fois. Là, on rentre un petit peu dans le dur. On va parler de ta première concurrence. Première concurrence, pas forcément liée à tes confrères photographes, mais plutôt à une autre type de concurrence, si tu peux nous en dire plus.
Oui, mais en fait, moi, j'ai tendance à dire que je n'ai pas de concurrents et de concurrentes, que tous les photographes, on a des styles différents. Donc, je ne me sens pas forcément en concurrence avec eux. Je sais que je vais être adaptée à certains styles et d'autres à d'autres. Uh-huh. Voilà. En revanche, c'est vrai qu'il y a des marques qui n'ont pas beaucoup de budget et qui préfèrent prendre des gens qui sortent d'école et qui vont vendre des photos vraiment à des prix très très bas, ou même qui vont accepter de ne pas être rémunérés du tout pour des shootings photos commerciaux. Mmh. Alors, c'est normal de faire des photos gratuitement. Moi, j'en fais encore, je fais encore des collaborations, mais c'est quand il n'y a aucun enjeu commercial derrière. Okay. Et ça, je pense que c'est très important de le respecter, parce que sinon, ça tue le marché, quoi.
Ouais. Il y a des codes, en fait, que certains ne comprennent pas. Quand je dis des codes, c'est lié à votre activité, celle de photographe. Et du coup, tu as un petit peu ce côté disruptif qui arrive, mais du coup, qui casse un petit peu les prix et forcément aussi qui casse un peu l'image de votre activité, du coup.
Oui, en fait, c'est plus au niveau de... Enfin, c'est du coup qu'il y a une grande pédagogie à faire au niveau des clients pour leur faire comprendre qu'une photo, c'est pas gratuit ou ça coûte même assez cher au final, et d'expliquer tout notre travail derrière. Et c'est vrai qu'il y a des gens très, très talentueux qui se lancent et je pense qu'ils ne devraient pas sous-vendre leur travail.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, tu le sais, j'ai une agence de télémarketing. C'est de la prospection téléphonique qu'on propose à nos clients. On est assez cher en termes de prix. Et je me souviens d'avoir des clients qui me disent « Mais moi, j'ai votre concurrent X qui est quatre fois moins cher. » Et justement, c'est la pédagogie dont tu parles, c'est celle-ci à faire avec certains clients. C'est ce client-là, ce concurrent, s'il vous propose ce prix, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que ça... Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est mauvais ce qu'il propose, mais que c'est peut-être différent. Et que du coup, il y a aussi ce travail à faire en tant que prestataire pour dire bah, « Nous, on a tel... » activité, telle fonctionnalité, tel service supplémentaire. Et après, quand il y a une différence de prix, en général, c'est surtout une différence de qualité.
Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai aussi que malheureusement, dans le milieu en tout cas de la photo, il y a quand même des gens qui font des très très belles photos à des, enfin voilà, qui sont très talenteux et amateurs.
Et amateurs. Hein. Mais toi, tu es professionnel et tu n'es pas amateur et tu fais un travail de qualité, je crois.
Merci. Oui, après, je pense que ce qui peut changer, c'est l'expérience, c'est la gestion d'une production, des contacts que je peux avoir. C'est ce qui va aussi faire la différence. Et je vais savoir aussi quels vont être les process dans un shooting mode, par exemple, que ne connaîtra peut-être pas quelqu'un qui sort d'école. Et encore, s'il a été formé à ça et s'il a fait des stages, il connaît aussi ses process. Donc, c'est important qu'il applique le juste prix.
Complètement. Et c'est bien de le dire. T'as tout intérêt justement à le mettre en avant et c'est très bien de le souligner. On passe du coup à une quatrième première fois. Ah, c'est pas du tout cool cette première fois qu'on va aborder. Moi, j'en parle souvent justement dans mes contenus LinkedIn. Là, on parle d'un client, un impayé, qui n'a pas forcément payé en temps et en heure ou qui n'a peut-être même pas payé du tout.
Enfin, je te laisse nous en parler.
Ah oui, d'accord, c'est encore autre chose.
Ben, heureusement, c'est arrivé qu'une seule fois dans les... Ben, ça fait 10 ans que je suis à mon compte, donc c'est arrivé qu'une seule fois. Il ne m'a plus jamais donné signe de vie.
Okay.
Donc, la collaboration s'est arrêtée là et malheureusement, je n'ai pas été payée pour ma prestation. C'est un petit peu dur. J'ai fait beaucoup de relances et puis au bout d'un moment, j'ai laissé tomber parce que je n'avais pas envie de passer d'énergie là-dedans. Voilà, je sais que j'aurais pu aussi faire appel à un huissier, mais en fait, ça m'aurait coûté de l'argent et je ne sais même pas si j'aurais récupéré mon argent.
Ça te coûte de l'argent, ça te coûte de l'énergie, tu ne sais pas forcément derrière sur quoi ça va aboutir.
Exactement.
C'était une prestation que tu avais terminée, qui était aboutie, ou il restait des choses à faire ?
Non, c'était une prestation terminée. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai quand même tendance à toujours faire confiance aux gens et à facturer une fois que ma prestation est terminée, donc c'est-à-dire une fois que j'ai rendu les photos, ou quand je fais du community manager, que ce sont des forfaits au mois, je facture en fin de mois. Mais c'est vrai que si je sens pas quelqu'un, je vais demander un acompte d'au moins 30%.
Pour voir déjà si c'est un client qui est pas rentable, mais en tout cas qui est de bonne foi et qui est prêt.
Exactement.
Ok. C'est surtout comme ça qu'on voit si les clients justement sont engagés en règle générale.
Voilà. Après, je trouve que l'intuition fonctionne bien. Enfin, en tout cas, chez moi, ça fonctionne bien. Et j'ai eu tendance à m'entourer que de personnes en qui j'ai pu avoir confiance, qui n'ont pas trahi ma confiance. Je travaille surtout par le bouche à oreille. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, voilà. Ça a fonctionné comme ça.
Mais c'est vrai que quand il y a des recommandations, bon, après, ça peut parfois mal se passer, mais c'est quand même...
Oui, ça arrive. Hein.
En général, des personnes de confiance qui viennent vers le prestataire ou inversement, donc c'est plutôt une bonne chose. Ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est surtout de faire confiance à son instinct. Et l'entrepreneur, il fait beaucoup appel à son instinct dans des décisions parfois délicates à prendre. Et c'est plutôt chouette et c'est bien en tout cas que tu le dises parce qu'il faut vraiment se faire confiance. Si on ne sent pas quelque chose, il ne faut pas le faire. Tu dis que tu as quand même toujours fait confiance après, malgré tout, cette expérience-là à tes autres clients. Est-ce que tu as quand même été un petit peu échaudé par rapport à ça ? Est-ce que tu t'es remis en question ? Ou tu t'es dit, bon voilà, en 10 ans, ça m'est arrivé qu'une seule fois, donc...
Non, ouais, je me suis un peu... Enfin, peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais je me suis un peu dit, effectivement, que voilà, c'était une fois quelqu'un de pas très carré, quoi, de pas très honnête, et puis voilà, mais heureusement, non, ça s'est pas reproduit.
Ok, bon, tant mieux, puis on croise les doigts en espérant que ça n'arrive pas. Et tu l'as dit, en 10 ans, ça t'est arrivé qu'une fois, donc ça n'arrive pas souvent, mais le truc, c'est que quand ça arrive une fois, ça peut vous plomber vraiment la trésorerie.
Oui, ça c'est vrai. Après, c'est aussi que c'était pas c'était pas une grosse somme, donc ça allait. Mais
c'est sur le principe quand même.
Voilà, sur le principe. J'avoue, tu me demandais mon sentiment. C'est sûr que ça m'a énervé. Mais il y a un moment où voilà, je me suis dit bon allez, c'est bon, je tourne la page, je laisse tomber. Ça, faut pas que je rumine trop ça quoi.
Ouais. Sinon après, t'avances plus et tu te concentres plus sur ton travail et tes autres clients.
Exactement.
Yes, on passe du coup à cette dernière première fois. Ça veut dire qu'on arrive quand même à la fin de l'épisode. J'ai une petite pincée. Au cœur, là, je me dis, mince, il faudrait qu'on fasse des 10 premières fois, 15 premières fois quand ça se passe bien avec les invités. Enfin, ça se passe bien toujours avec les entrepreneurs, mais moi, j'aime tellement ce que je fais, donc je pense que je vais à un moment donné augmenter les premières fois.
Le nombre de questions.
Ah oui, je pense. Alors, on l'a nommé ensemble, tu te souviens, cette première fois, on l'a appelé ensemble.
Oui.
La première fois, du coup, que tu as mis tes œufs dans le même panier, donc là, les gens, ils sont choqués, ils ont déjà peut-être même quitté l'épisode. Je te laisse nous expliquer en détail pour rattraper un peu le coup.
Et oui, parce que je pense que quand on débute, tout le monde nous donne des conseils. Tout le monde nous donne plein de conseils, notamment un qui est très bien, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas avoir qu'un seul client. Et moi-même, je l'ai conseillé à un très grand nombre de personnes qui m'ont demandé conseils avant de se lancer. C'est quelque chose, effectivement, auquel j'ai toujours veillé, c'est d'avoir des contrats fixes, plusieurs contrats fixes, et ensuite d'avoir plein de petits contrats qui me permettaient voilà, de gagner, enfin, d'avoir un plus gros chiffre d'affaires.
Et de prévoir davantage.
Voilà, c'est ça. Mais qu'au moins, que j'ai plusieurs fixes qui assurent mes charges fixes, en fait. Et donc, en fait, quand je suis revenue de mon second congé maternité, j'avais plus qu'un seul contrat fixe qui était plutôt bien payé. Donc, je me suis un peu laissée faire. Et puis, en fait, quand toutes les équipes en interne ont changé, ils ont aussi changé de prestataire. Donc, je me suis retrouvée sans plus aucun contrat fixe. Et donc, ça a été une grosse source de stress. Le côté positif, si je dois en voir un, c'est que ça m'apprendra. Mais c'est surtout que ça m'a aussi remotivée à vraiment me démener, en fait, à refaire du travail, à refaire des projets personnels pour avoir des photos à montrer un peu nouvelles et pas avoir que du commercial. Donc, mais c'est vrai que c'est pas facile de, ouais, de retrouver comme ça un gros contrat, quoi.
Un gros contrat du jour au lendemain, bah surtout que tu disais ça faisait un an et demi. Donc...
Oui, ça faisait même 2 ans, je pense, qu'on travaillait ensemble. Alors, j'ai un peu senti le coup venir parce que la personne avec laquelle je travaillais a démissionné. Je voyais que les équipes changeaient et que c'était de plus en plus compliqué, en fait, de travailler, qu'on me demandait beaucoup plus de choses que ce qui était prévu dans le contrat initial. Donc, bah, tu vois, je pense qu'ils ont pris quelqu'un de beaucoup moins cher que moi pour le même travail, si ce n'est plus, je ne sais pas.
C'est souvent le cas quand tu as des changements en interne, quand tu as un nouveau directeur qui arrive.
Exactement.
Quand t'as un changement,
souvent,
les gens.
Souvent, tu as quelqu'un, surtout quand c'est des directeurs, hein, je vais faire des gros stéréotypes, mais.
Non, c'est vrai.
Quand ce sont des vieux messieurs avec beaucoup d'égo, ben, en fait, ils ont envie aussi de placer tous les gens qu'ils connaissent et de remonter des équipes complètement nouvelles, quoi.
D'où l'importance de ce que tu dis dans ton témoignage, dans ton partage d'expérience, que c'est important de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Quand je dis ça,
tu t'es endormi sur tes lauriers. Non, c'est complètement ça, c'est sûr.
C'est super important de prévoir l'avenir, de se dire, même si je suis avec chaque client, ça se passe bien, il y a un gros contrat.
Exactement.
C'est bien d'avoir des petites choses à côté, d'essayer de... J'ai envie de dire, c'est facile à dire, parce que quand on est dans cette zone de confort, on n'a pas forcément envie d'en sortir. L'être humain, il n'aime pas trop sortir de cette zone. Il est plutôt obligé à chaque fois. Donc, c'est comme ça qu'il se dépasse, il se surpasse. Mais... c'est super important quand même d'être vraiment vigilant sur ça.
Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que parfois, on a des moments aussi où on est un peu fatigué, où on a moins d'énergie. Et voilà, c'est pas toujours facile, effectivement, d'être à son compte. Voilà, comme je te disais, il y a eu le Covid aussi qui a fait stopper. En plus, moi, dans mon milieu, la mode, ça a été vraiment très, très compliqué. Plus la guerre en Ukraine après, qui affecte énormément mon travail, donc même encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est une bataille de chaque instant, on va dire.
Et c'est bien de le dire. C'est pas parce que ça fait 10 ans, mais c'est pas 10 ans linéaires, c'est 10 ans où il y a justement c'est en dents de scie. Il y a vraiment des périodes plus compliquées. Il y a des dodanes. Parfois c'est plus des dodanes, c'est des vraies montagnes russes. Donc c'est important de le dire pour en avoir conscience et surtout de se dire quand ça se passe bien, c'est cool, mais il y a aussi des moments où il y aura des cycles, il y aura des périodes. Tu l'as dit toi-même, tu as réussi en tout cas à passer tout ça, donc à passer ces batailles-là. Il y en aurait peut-être d'autres, enfin je ne te le souhaite pas, mais en tout cas c'est quand il y en a qu'on en ressort aussi grandi. Donc c'est bien de pouvoir aller au-delà des difficultés en général.
Oui, ouais, c'est vrai, mais voilà.
Ouais, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Du coup, je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Noémie d'il y a 10 ans qui va commencer l'entrepreneuriat, qui va lancer son activité, alors pas forcément dans la photographie, peut-être même dans d'autres choses, mais tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu te conseillerais 10 ans en arrière?
Je réfléchis très rapidement.
Pas évident hein, comme question.
Non, c'est pas facile. Je pense qu'il... Je me l'étais déjà dit, en fait, je savais pourquoi je me lançais à mon compte. Et je pense que c'est très, très important parce que c'est jamais comme on se l'imaginait, mais il faut vraiment avoir en tête, il faut le faire pour les bonnes raisons. Il faut pas que ce soit parce que on nous le demande pour du salariat déguisé. Il faut pas le faire parce qu'on trouve pas de boulot et que du coup on va se mettre comme ça parce que il y a que des offres en freelance. Pour moi, ça c'est pas une bonne raison pour se mettre à son compte. Je pense que c'est bien d'avoir un vrai projet qui nous tient à cœur parce que ça va nous demander beaucoup d'énergie. Donc il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait.
Ouais, donc avoir vraiment le bon moteur, pas forcément d'autres moteurs qui seraient un peu éphémères, comme peut-être l'argent, le salariat déguisé dont tu parlais aussi. Donc, c'est vraiment important justement d'avoir quelque chose qui nous anime au fond et pas d'avoir une idée qui émane de quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment que ça vienne de soi et du fond de nous-mêmes. Je pense que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et même si ça ne fonctionne pas, au moins, on ne sera pas déçu parce qu'on aura donné le meilleur de nous et on ne pourra pas en vouloir à la terre entière ou à quelqu'un qui nous aurait conseillé autre chose.
Oui, très juste.
Yes, non, très juste à toi. Merci pour ces conseils. Merci pour
ce plaisir. Partage. J'espère que je pourrai motiver. Ou
revenir
aider,
Non, ce n'est pas la peine. Pas besoin. Si, motiver, je pense, c'est sûr. Forcément, des gens qui nous écoutent, qui sont dans le milieu entrepreneurial ou qui, en tout cas, vont l'être, t'apportent forcément des informations. Et c'est ça qui est intéressant dans ton partage. Donc, j'espère que ça pourra servir, mais j'en suis quasiment convaincu.
Bah, merci beaucoup.
Merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Très content d'avoir eu ce partage avec toi. Et moi, je dis à tout le monde, à la semaine prochaine, du coup, à très vite, en tout cas, avec un ou une nouvelle invitée. On verra, ce sera la surprise. Merci à tous, à très vite.
Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.